Thibaud de Rouvray, bonjour.
Bonjour, Louis Dagiraud.
Alors, vous êtes, je le rappelle, président de la Société académique des Hautes-Pyrénées. Depuis maintenant plusieurs mois, nous vous suivons à l'intérieur de nos églises pour en découvrir les merveilles patrimoniales et aussi en comprendre l'architecture et le lien qu'elle peut avoir avec la liturgie. Ces dernières semaines, nous avons voyagé au seuil du sacré. Aujourd'hui, on saute le pas. Vous nous emmenez, j'ai envie de dire, dans le Saint des Saints. On entre dans le cœur, presque sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit. Dans ce cœur, il y a le maître autel et tout le mobilier qui l'orne. Vous évoquez également ce qu'on appelle la réserve eucharistique. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors c'est vrai que maintenant, on n'emploie plus facilement le terme de tabernacle qui est utilisé, mais la réserve eucharistique, c'est-à-dire l'endroit où on conserve les hosties consacrées, elle n'a pas eu toujours cette forme-là. Elle a évolué au cours du temps.
Quelles ont été les principales phases?
Alors, à l'époque romane et même jusqu'à la fin du Moyen-Âge, dans certaines régions, on place les hosties à l'intérieur d'un petit vase qui a la forme d'une colombe. Et symboliquement, c'est la colombe eucharistique, la colombe du Saint-Esprit. Elle peut être suspendue avec une chaîne au-dessus de l'autel, donc bouger un petit peu avec le vent. Et on a l'exemple dans certaines églises de l'Aveyron, au début du XVIe siècle. L'évêque voilà, n'apprécie pas trop parce que cet oiseau qui remue tout seul, avec le vent, voilà, ça a un côté qui n'est pas très sérieux pour lui, donc on évolue vers une autre forme de réserve eucharistique aussi.
Alors il y a une date charnière, c'est dans beaucoup de domaines, et dans celui-là aussi, celui du Concile de Trente.
Oui, puisque durant tout le Moyen-Âge, à côté des colombes eucharistiques, on peut aussi trouver des armoires eucharistiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meubles sur l'autel lui-même, mais il faut imaginer un placard encastré dans l'épaisseur du mur, et c'est dans ce placard, souvent fermé avec une porte très solide, que l'on va conserver le ciboire avec les hosties. Mais à partir du Concile de Trente, pour toute l'époque baroque, on va développer les tabernacles tels qu'on les connaît de nos jours, positionnés au centre de l'autel.
Alors, cet art baroque est spécialement important dans les Pyrénées. Quelques exemples dans nos églises, des Hautes-Pyrénées par exemple?
Oui, c'est vrai que les Hautes-Pyrénées ont été très riches de sculpteurs baroques, plusieurs dynasties. Hein. Les Ferrer sont les plus connus, la famille Ferrer d'Asté, puisqu'ils œuvrent entre 1650 et 1820 en gros. Mais il y a aussi d'autres sculpteurs peut-être moins connus, mais les Soustres. Donc, tous sont réalisés parfois des tabernacles assez remarquables avec non seulement une armoire eucharistique centrale, mais aussi tout un décorum, des ailes latérales et tout un décor de chandelier associé. Je pense à ceux d'Ancizan ou ceux d'Aurignac également, dont le maire, M. Latour, entreprend la restauration.
Alors, il y a au sein de la liturgie un moment important qui est celui du lavement des mains, qui lui aussi, au fil des ans, va trouver des expressions différentes.
Oui, c'est vrai qu'actuellement, on a ce qu'on appelle le lavement des mains ou le lavabo, donc que fait le prêtre. Il le fait avec une cuvette et une aiguière. Avant l'époque moderne, on a un autre dispositif qu'on appelle la piscine liturgique.
Une piscine liturgique, mais il n'était pas question de s'y baigner. C'est réservé au lavement des mains. Et où se trouvait-elle alors?
Voilà, en effet, ce n'est pas du tout quelque chose où on va s'immerger. Il faut imaginer dans un des murs du chœur, pas très loin de Gotel, une petite niche, un renfoncement, et au fond, une petite cuvette dans laquelle on va pouvoir se laver les mains en versant de l'eau avec une aiguière. Et ce qui est important, c'est que le fond de cette cuvette est relié avec les fondations de l'église.
Alors, autre élément, et nous en terminerons avec celui-là, dominant le tabernacle. Alors, je ne sais pas s'il est là de façon systématique, un crucifix.
Oui, voilà, pour ces obligations. Alors, sur l'autel, qui est déjà un petit crucifix posé lors de la célébration de l'office, mais aussi que dominant le tabernacle, il y ait. Alors, dans les tabernacles baroques, on peut avoir souvent une petite niche avec une représentation de la Vierge à l'enfant, mais en partie supérieure, on va retrouver soit un Christ ressuscité, soit un crucifix.
Vous avez quelques exemples qui vous viennent à l'esprit, toujours en Occitanie?
Oui, alors bon, ça, on en trouve des crucifix de ce type dans la plupart des églises et des cathédrales. Voilà, pour célébrer, il faut que ce soit disposé donc avec un étagement de gradins, les chandeliers, le Christ au sommet, et parfois aussi tout un décorum de vases. Notamment dans les années 1900, on apprécie beaucoup les vases avec des fleurs artificielles sous globe.
Alors, ça, nous paraît,
voilà, ça nous paraît très chargé, mais c'est tout à fait la mode à l'époque.
Alors aujourd'hui, il y a des équipes d'animation paroissiale plus spécialement en charge du fleurissement. Les fleurs artificielles ont semble-t-il, disparu des églises, en tout cas celles qui sont régulièrement fréquenté.
Oui, c'est vrai que voilà, c'est quand même beaucoup plus beau symboliquement et aussi olfactivement d'avoir de vraies fleurs sur les autels et pour toute la décoration des pupitres alentours.
Voilà Thibaut de Rouvray, merci pour cette visite éclairée du sanctuaire, du cœur de nos églises. À très bientôt.
À bientôt.